Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sexualité. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone la sexologue Pascale Skomski. Comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Alors c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui à l'antenne. Vous allez pouvoir nous éclairer de votre expertise et vous êtes aussi invitée parce que vous avez lancé récemment un challenge vers une sexualité apaisée et épanouie. Déjà, pourquoi ce nom de challenge ?
Tout à fait, merci. Le mois dernier, en fait, je réfléchissais à proposer quelque chose à ma communauté et je me suis dit qu'avant de parler des difficultés de la sexualité, avant de parler des troubles, et ça serait déjà bien de définir qu'est-ce qu'une sexualité vers laquelle on veut aller. Et en fait, quand j'ai un peu posé la question à ma communauté, la plupart me disaient « mais en fait, nous, on veut d'abord une sexualité qui est apaisée, qui n'est pas source de conflit et qui est source de plaisir ». Et donc, du coup, finalement, ça s'est orienté vers ce sujet-là, avec en sous-entendu dans ce sujet le fait que les difficultés sexuelles ne soient pas forcément une problématique ou un frein, mais plutôt en fait une possibilité de développer des compétences ou de mieux comprendre les choses.
Alors, de quoi parle-t-on plus précisément quand on évoque les termes d'apaisement, d'épanouissement aujourd'hui? Il y a peut-être besoin d'une précision pour que tout le monde puisse bien comprendre ce dont il s'agit.
Actuellement, les gens viennent me consulter en tant que sexologue parce qu'ils ont des difficultés dans leur sexualité. Ils ne sont pas satisfaits de la sexualité actuelle qu'ils vivent et ça crée des tensions autant dans le couple qu'en individuel. Et du coup, cette notion d'apaisement, c'est déjà effectivement mettre en lumière que ce n'est pas en partant de tensions, de conflits ou de difficultés qu'on va réussir à résoudre quelque chose, mais qu'on va d'abord mettre comme objectif et comme focus ce côté détente, ce côté ressourcement que peut avoir la sexualité pour après développer encore d'autres compétences.
Alors, donc, si je comprends bien, il faut déjà être apaisé avant d'espérer avoir une sexualité apaisée ou est-ce que l'inverse est possible ? Avoir une sexualité apaisée même pendant les conflits, c'est possible ?
Eh bien, du coup, c'est pour ça que mon challenge travaillait sur le regard qu'on a. On peut être dans un conflit, mais pour autant ne pas rester bloqué sur ce sujet et l'utiliser comme une opportunité, où on peut être face à un blocage, à un conflit, et rester en fait englué dans son conflit parce qu'on n'a pas la capacité de voir autrement. Donc c'est pas parce qu'on est apaisé qu'on peut aller vers plus de saveur et plus de plaisir, c'est parce qu'on change le regard et qu'on oriente le regard vers des solutions plutôt que vers la problématique. Je ne sais pas si c'est plus clair du coup.
Bien sûr. On entend parfois aussi, selon une vulgate un peu populaire, que la sexualité, le sexe, ce serait le ciment du couple. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, tout dépend qu'est-ce qu'on met derrière le mot sexe. Et c'est là l'une des problématiques actuelles, c'est qu'en fait, personne n'est d'accord sur la définition de qu'est-ce que la sexualité. Et donc, du coup, si c'est juste avoir un coït et avoir des rapports physiques comme faire du sport, pour moi, c'est pas ça le ciment du couple. Par contre, si c'est aller dans l'intimité, aller dans de la qualité relationnelle, alors dans ce cas-là, effectivement, c'est ça le ciment du couple.
On va revenir sur ce challenge. Donc, je précise qu'il a été adressé à votre communauté Facebook. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste, à qui il était adressé, quel profil majoritaire se dessinait parmi les personnes qui ont participé ?
Oui, alors l'idée du challenge, c'était de dire ne faites de vos difficultés sexuelles, ne faites pas une fatalité de vos difficultés sexuelles, mais plutôt une opportunité. Et donc l'idée, c'était tous les gens qui actuellement, dans ma communauté, se retrouvaient dans un blocage par rapport à leur sexualité, de leur permettre d'ouvrir un autre regard sur ces troubles sexuels, peu importe lesquels ils présentaient. Et donc, du coup, on a beaucoup abordé les émotions, les valeurs, le fait de se prendre en main et se prendre en charge plutôt que de rester dans un statut de victime ou de défaite. Voilà, surtout les principaux, les deux premières semaines, c'était vraiment ça. C'était d'abord se retourner vers soi-même et voir en fait là où on en était et voir quels étaient les besoins et quelles étaient les croyances.
Et donc, à qui ce challenge était adressé? Est-ce que c'était adressé à une large communauté sur Facebook? Est-ce qu'il était ouvert à tous?
Il était ouvert à tous, mais il fallait venir dans le groupe privé, parce que le but, c'était qu'il y ait un... Dans mon idéal, c'était qu'il y avait un partage et un échange. Et je me suis rendu compte que finalement, la sexualité et les difficultés sexuelles étaient encore très tabous. Et donc, il y a eu un peu d'échanges, mais pas beaucoup. Par contre, j'ai eu plus de retours de mails et des échanges finalement informels, pas sur le groupe, sur ce que je pouvais proposer comme réflexion ou comme exercice.
Alors, combien il y avait de personnes dans ce groupe?
42.
42 personnes, et c'est sur 21 jours, hein, si je ne m'abuse.
C'était ça, oui.
Et comment, justement, vous avez réussi à les solliciter, ou plutôt par quels moyens? Est-ce que c'était juste des posts et ils devaient commenter? Est-ce qu'il y a eu des sondages? Est-ce qu'il y a eu des témoignages?
Oui, c'est ça. Une fois qu'ils étaient sur le groupe, je donnais un contenu tous les matins avec des réflexions de pratiques à mettre en place, avec des demandes de partage. Et c'est là où, du coup, j'ai reçu plus de réponses par mail individuel que de partage directement sur le groupe.
C'est encore cette question de tabou, c'est qu'on a, il y a peut-être encore chez les gens la peur d'exposer un peu, même ne serait-ce qu'une esquisse de qui touche à l'intime.
Tout à fait, et j'étais étonnée parce que tout au début, surtout la première semaine, finalement, je ne parlais pas de sexualité, je parlais de regard sur soi, d'émotion, de valeur. Et effectivement, les réponses que j'ai eues quand j'ai envoyé des sondages sur pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'interactions dans le groupe, les gens me répondaient que c'était très intéressant, mais que rien que de parler de ça, c'était déjà très personnel, et que comme ils ne connaissaient pas les autres personnes du groupe, c'était assez bloquant pour eux.
Et selon vous, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à ça, justement, d'essayer d'analyser d'où viennent ces tabous? Qu'est-ce qui les crée?
Les tabous, bah déjà, on manque énormément et cruellement d'éducation sur les émotions. Et donc, je me rends compte que même quand je parle simplement des émotions, des valeurs, c'est assez compliqué pour les personnes parce que ce n'est pas des questions qu'elles se sont posées. Et donc déjà, à ce moment-là, je vais dans l'intime, en fait. Effectivement, on ne parle pas de sexualité, on ne parle pas de pratique. Mais déjà, à ce moment-là, en fait, on est dans cette notion d'intime et de pudeur.
Et donc, est-ce que vous avez pu dresser un bilan de résultats par rapport aux objectifs? Déjà, est-ce qu'il y avait même des objectifs clairement définis quant à ce challenge?
Alors, les objectifs, c'était justement que les gens osent parler et participer. Donc, du coup, là, je me suis rendu compte à quel point, pour moi, c'était mon vocabulaire quotidien, mais que finalement, c'était pas si simple pour les gens autour de moi d'oser parler comme ça des émotions et de leurs envies, de leur intime. Donc, du coup, c'était peut-être une prise de conscience pour moi. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'un challenge sur 21 jours, ça demandait trop de temps et d'organisation pour les personnes. C'est eu plusieurs fois que j'ai eu le retour en disant « le contenu était super intéressant, c'était génial ». Mais en fait, alors que c'était 5 minutes, hein, c'était 5 minutes de réflexion par jour, mais déjà 5 minutes de réflexion par jour pendant 21 jours, c'est beaucoup trop.
Et quel type de questions, justement, on pouvait retrouver lors de ce challenge, lors des sondages? Globalement, c'était des questions donc, sur les émotions, mais aussi peut-être sur les relations dans le couple ou pas forcément. Est-ce que vous êtes resté un peu plus loin?
Sur la communication, notamment. Sur la capacité à prendre conscience que parfois on est dans des représentations du désir ou de l'envie de l'autre, mais qu'on ne pose pas clairement les questions. Donc là, c'est aussi intéressant les réponses que j'ai eues en disant, ah ben, maintenant que tu le formules comme ça, effectivement, on est parfois dans l'anticipation parce qu'une fois l'autre nous a fait comprendre que c'était ça qu'il aimait bien, mais on n'a jamais été vérifié ou validé que c'était vraiment ça qu'il avait envie.
Et donc, vous m'avez dit que sur le challenge, il y avait encore cette inhibition et par mail, les personnes étaient un peu plus décontractées. Est-ce que justement par mail, vous avez pu pousser la réflexion quant à ce challenge ou il y avait quand même ce blocage qui persistait?
Alors par mail, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Par contre, effectivement, par mail, à un moment donné, ce qui revenait quelquefois, c'était de dire que c'est pas en 2-3 échanges de mails qu'on va réussir à débloquer la situation ou à changer le fonctionnement, et que donc du coup il aurait fallu quelque chose de bien plus poussé. Donc du coup c'était une des possibilités aussi par la suite de dire, bah, dans ce cas-là peut-être qu'un accompagnement individuel ou qu'un accompagnement de couple aurait du sens.
Alors, on va marquer une petite pause musicale avec une artiste qui, visiblement, n'a pas besoin d'accompagnement puisqu'elle se livre sans tabou sur ce morceau qui s'appelle Boom Boom Baby, et c'est Juliette Armanet sur RCN.
Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN.
Et nous, on est sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau de Juliette Armanet, Boom Boom Baby. On parle de sexualité aujourd'hui, vers une sexualité apaisée et épanouie, avec la sexologue Pascale Skomski. En 2019, vous avez été diplômée en études de sexualité humaine à la faculté de Metz, et depuis, vous exercez ce métier. Parlez-nous de l'importance de l'écoute dans votre métier. Qu'est-ce que l'écoute, elle génère au final chez les personnes que vous accompagnez ?
Pour moi, c'est une des priorités, c'est effectivement de redonner la parole aux personnes. Et donc, une écoute bienveillante, non jugeante et accueillante, c'est vraiment la base, en fait, de mon métier. Et je me rends compte à quel point, dans notre société, elle est parfois manquante, cette écoute bienveillante, non jugeante. Et du coup, c'est vraiment le retour que les personnes qui viennent me voir ont en disant « c'est super d'avoir un endroit où on a le droit de poser nos questions, même les plus bêtes. c'est super d'avoir un endroit où on peut développer des compétences, développer des connaissances et où tout est possible et où tout est autorisé dans le respect de certaines règles, quoi.
On parle d'écoute bienveillante, non jugeante, mais comment elle se matérialise, comment elle se caractérise? C'est-à-dire que quelqu'un se livre sur sa sexualité, sur son intime, des choses parfois dont elle a honte ou elle a peur, comment il faut écouter, comment il faut recevoir quand on n'est pas sexologue, quand on est juste ami pour conseiller, quelle attitude faut-il adopter?
Ben, du coup, je pense que déjà, il ne faut pas vouloir être dans le conseil. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. C'est peut-être l'une des étapes les plus compliquées, je trouve, c'est pour avoir une écoute juste et bienveillante. Le but, c'est de ne pas vouloir être conseillé ou de ne pas vouloir trouver une solution pour l'autre, mais juste d'être là, déjà, pour accueillir ce que l'autre a donné entièrement. Et après, l'autoriser aussi à réfléchir sur des solutions qu'il n'avait pas encore envisagées. Et si après, vraiment, il y a besoin de conseils, on valide avec la personne qu'elle a besoin d'un conseil. Mais cette étape de avant, de ne pas vouloir être dans le conseil ou de ne pas vouloir être dans la relation de cette manière-là, c'est important, je trouve.
Et est-ce que cette écoute-là, au final, elle peut créer un déblocage chez la personne qui parle?
Oui, parce qu'en fait, dans notre société, on est dans beaucoup, beaucoup de représentations. Et quand on se rend compte que finalement, ce qu'on imagine de pas juste ou de pas correct, c'est quelque chose qui est possible, qui est autorisé. Ça permet en fait de se sentir plus léger. Et c'est pour ça, du coup, que je voulais absolument travailler sur les croyances liées aux troubles sexuels. Parce que des fois, notamment quand je reçois des hommes avec des troubles éjaculatoires ou des troubles érectiles, ils sont dans des jugements de valeur par rapport à eux, par rapport à leur capacité, par rapport à qui ils sont en tant qu'hommes. Et quand on pose déjà tous ces ressentis-là, il se passe quelque chose de différent finalement à l'intérieur de la personne.
On parle de ces hommes, mais est-ce que finalement cette pression sociale-là, c'est ce qui crée le malaise chez les hommes? Et puis au final, est-ce que elle est plus présente chez les hommes que chez les femmes, ou ce sont des reproches un peu partagés?
Alors les manifestations ne sont pas les mêmes chez les hommes, chez les femmes, mais je trouve que le poids de ce que la société actuellement donne fait des troubles chez tout le monde, crée du stress, créer de la peur liée à la performance, liée à l'orgasme, liée à des injonctions comme ça de la société. Après, effectivement, ça ne se manifeste pas pareil chez l'homme, chez la femme. Et je trouve que malheureusement, chez l'homme, c'est encore plus compliqué parce que chez la femme, il y a eu une sorte de révolution où la femme a le droit de dire, a le droit de s'exprimer, a le droit de prendre sa place. Alors que pour l'instant, je trouve que pour l'homme, c'est plus compliqué d'être à la fois l'homme viril, à la fois le tendre amant, à la fois le bon père, à la fois le manager. Enfin, il a beaucoup, beaucoup de casquettes et je trouve que c'est pas facile pour les hommes qui viennent me voir en consultation de vivre tout ce qu'ils ont à vivre.
Et toujours sur ces questions de pression sociale, vous avez évoqué le terme de croyance. Vous m'avez dit, il y a encore certaines croyances qui persistent et qui pèsent comme ça en quelque sorte sur la tête telle une épée Damoclès. Est-ce que vous avez retenu quelques-unes de ces croyances qui traînent encore dans l'espace public?
Ben, chez la femme, c'est il faut que je satisfasse mon mari sexuellement, donc je dois aller dans la sexualité pour lui faire plaisir. Même si j'ai pas envie, malgré effectivement les révolutions sexuelles, les choses comme ça, il y a encore des discours, il en a besoin et c'est mon rôle. Et chez l'homme, c'est je dois donner un orgasme à ma partenaire, je dois être responsable de sa satisfaction. C'est moi le garant en fait du plaisir de ma partenaire.
Finalement, dans cette représentation-là que vous citez, l'objectif en fait d'une relation sexuelle, ce serait absolument l'orgasme et non plus un échange tendre et affectueux.
C'est surtout là où ça bloque, en disant finalement effectivement quand la sexualité est résumée notamment à la pénétration et à l'orgasme, ça restreint énormément les champs de l'intime et les champs de la sexualité.
Et justement, ces préjugés-là, comment les déconstruire, comment les combattre aujourd'hui?
Bonne question. En libérant la parole, mais pas comme c'est fait. Actuellement, la sexualité est visible partout, mais elle est visible qu'un certain type de sexualité est visible et pas tous les types de sexualité. Et donc l'idée, c'est de libérer la parole, mais sur toutes les possibilités liées à l'intimité, et puis sur le fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire.
Vous parlez d'un seul type de sexualité qui est visible partout dans la société. Est-ce qu'on peut le décrire ? Quel est-il ce type de sexualité-là, pardon ?
Ça, c'est une sexualité basée sur la performance, basée sur la pénétration, sur des orgasmes spectaculaires. C'est vraiment en fait ce que la pornographie représente. Alors effectivement, c'est une partie de la sexualité, mais c'est tellement dommage de la résumer à ça.
Alors, vous parlez souvent d'accompagnement quand vous parlez de personnes que vous écoutez. Quelle importance a ce terme à vos yeux, le terme d'accompagnement ?
Pour moi, ce mot, il est important parce que je ne suis pas là pour faire à la place de la personne ou pour dicter qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon pour la personne. Et du coup, cette notion d'accompagnement, c'est moi, je vais mettre à disposition mes connaissances et on va cheminer ensemble vers quelque chose de plus juste pour chacun. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir être pertinent dans ce que la personne a besoin.
Et c'est vrai que tout ça est très cohérent, hein. Ça va aussi avec le nom de votre page Facebook, Vers une sexualité apaisée et épanouie. Ce vers est toujours en fait dans ce champ lexical de l'accompagnement, du cheminement, et non pas de la performance, de l'objectif absolu, mais plutôt d'une route, une voie à tracer.
Ouais, et puis je voudrais compléter en disant que pour moi, la sexualité, elle se développe tout au long de la vie. Donc, voilà, elle se développe même déjà en fait en tant que fœtus dans le ventre de notre mère. On avait des réactions physiologiques d'excitation et d'orgasme. Donc ça, c'est intéressant à en avoir conscience. Et donc du coup, déjà, tout petit, la sexualité qui n'est pas érotisée et qui n'est pas comme elle est une fois qu'elle est adulte, est déjà présente. Et jusqu'à un âge très très avancé, la sexualité peut être présente, mais bien sûr qu'elle va évoluer et bien sûr qu'à chaque fois, il va falloir la recréer, la redévelopper et découvrir de nouvelles compétences, de nouvelles sensations, de nouveaux plaisirs pour qu'elle soit toujours satisfaisante.
Et à ce propos, parler de sexualité dès le plus jeune âge, vous le faites, quels en sont les enjeux ? Pourquoi il faut absolument parler de sexualité dès le plus jeune âge ? Et comment le faire surtout ?
Alors, moi, je suis persuadée que de parler de sexualité quand on a des adolescents en face de nous qui sont déjà dans des périodes assez compliquées, c'est trop tard. Et vraiment, mon désir et mon envie, c'est de libérer la parole bien plus tôt, de parler du consentement, de l'intime, du respect du corps, de nommer les parties du corps. Et actuellement, en tout cas, ce que je fais, c'est que je propose des ateliers à des jeunes filles de 8 à 10 ans pour parler des règles, de la puberté. Alors, effectivement, en ce moment-là, on ne parle pas de sexualité. Par contre, on parle du corps, du fonctionnement du corps et du respect du corps.
Et comment ces ateliers sont accueillis ?
Il y a deux manières. Il y a une manière super motivée et très enjouée de la part des gens qui me connaissent et qui me font confiance et qui disent « mais c'est des super opportunités pour nos filles ». Et puis, il y a une autre manière, avec beaucoup de prudence, beaucoup de peur et de distance, d'autres personnes qui se posent la question de qu'est-ce que je vais raconter, de pourquoi si jeune, et encore avec beaucoup de peur.
Jeune ou pas jeune, on est en tout cas tous concernés par cette question, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, même depuis le fœtus, nous avons certaines réactions physiques. Et cela, Lenny Kravitz l'exprime dans le morceau qu'on va écouter tout de suite qui s'appelle « Sexe ».
Yeah.
13h, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de Lenny Kravitz, Sexe, et de sexe on en parle aujourd'hui, vers une sexualité apaisée et épanouie avec Pascal Skomski qui est sexologue. Pascal, quel est le lien entre l'amour et la sexualité? Est-ce qu'on peut les dissocier? Si oui, comment?
Oui, on peut les dissocier. Quel est le lien? L'amour, je dirais que c'est un élan du cœur. Et donc, du coup, c'est pas forcément quelque chose qui va s'incarner physiquement. Alors que quand on entend plutôt parler de sexualité, alors il y a, comme je disais, plusieurs types de sexualité, mais notamment, quelques manifestations de la sexualité vont plus se passer dans le corps. Et donc, voilà, la séparation que je ferai, c'est du coup cette différence entre l'élan du cœur et l'élan du corps.
Et justement, quelle est la place des émotions dans la sexualité? Est-ce que aujourd'hui, on essaie de l'inhiber? Est-ce qu'il faut peut-être un peu plus la dévoiler pour avoir du mieux dans sa sexualité?
Eh ben, il faut effectivement déjà comprendre ses émotions pour, selon moi, pour aller dans une sexualité épanouie. Parce que si j'ai des peurs, des dégoûts ou juste une difficulté à accepter la joie, eh ben, je pourrais pas en fait savourer correctement ma sexualité. Donc c'est une des étapes que je propose lors des accompagnements, c'est de venir en fait visiter quelles sont les émotions qui sont présentes lorsqu'on parle d'intimité, lorsqu'on parle de sexualité.
Et toujours sur ces questions de lien, quel lien peut-on faire entre l'intime et l'estime de soi?
Alors, c'est drôle que vous parliez de ça maintenant. C'est une des thématiques qui vient actuellement beaucoup surtout les femmes que j'accompagne, en disant que si on a une vision de son corps qui est connotée négativement, ça va être très compliqué de venir dans de l'intime avec l'autre et laisser l'autre venir sur des endroits qu'on n'aime pas. Donc notamment, là, les derniers temps, on a beaucoup travaillé avec certaines femmes sur la représentation qu'elles avaient de leur sein, de leur poitrine, parce qu'elles les jugeaient, elles mettaient beaucoup de choses négatives dessus. Et donc forcément que dans la relation intime au partenaire, eh ben il n'avait pas le droit de venir à cet endroit-là et surtout c'était pas compris le pourquoi. Et quand on a retravaillé cette perception de son corps, qu'on a mis en place des outils pour accueillir différemment, eh ben du coup maintenant dans la sexualité c'est possible et c'est même possible d'avoir du plaisir avec leur poitrine. Et donc ça c'était vraiment chouette. Le côté parce que je travaille sur moi, sur mon regard de mon corps, sur mon regard de comment je me perçois, je peux développer en fait des ressources et du plaisir dans l'intime à l'autre.
Pour approfondir sur ces questions de corps, il y a des personnes aussi qui traînent un handicap ou qui ont des maladies chroniques, qui parfois sont confrontées à des difficultés sexuelles. D'où ça vient et comment y remédier?
Ben souvent, c'est parce qu'il n'y a pas eu ce travail en fait de pouvoir accueillir correctement tout ce qui s'est passé. Moi, pendant longtemps, j'ai travaillé avec des patients qui étaient psychotiques, donc dans de la psychiatrie. Et tant qu'il n'y avait pas une réelle acceptation de l'état, il y avait toujours une souffrance parce que du coup, on n'était pas normal, ça n'allait pas comme il faut. Et quand cette acceptation se passait, il y avait une autre relation du coup à la maladie, aux difficultés. Et alors c'est pas toujours facile, mais en même temps ça crée quelque chose d'un peu plus léger et d'un peu plus possible.
Donc les blocages, ils viennent déjà de cette question de ne pas se faire confiance, en tout cas de ne pas avoir confiance en soi, en son corps. Et c'est peut-être ce qui cause le manque de confiance en son partenaire et pourquoi pas même en son sexologue. Dans certains blocages psychologiques.
Et c'est pour ça qu'en fait, les trois étapes de mon accompagnement, en tout cas, c'est surtout de développer déjà une connaissance de son corps, de son fonctionnement, de ses émotions. Après, venir dans le ressenti de qu'est-ce que ça fait en moi, qu'est-ce qui se passe. Venir l'exprimer déjà à moi-même et après à l'autre. Et ensuite, la dernière étape, c'est de venir explorer d'autres choses ou venir développer d'autres compétences.
Et chez les personnes avec qui vous avez eu l'occasion d'échanger, est-ce qu'il y avait une notion de honte qui s'est établie ou même de peur? Et si c'est une notion de peur, d'où vient-elle cette peur face à la sexualité?
Cette notion de honte, de peur et de dégoût, elle est fréquemment là. Alors c'est dur de la mettre en lumière, parce que les gens, ils vont pas forcément facilement dessus, parce que c'est des émotions qui sont pas confortables à aller visiter. Et de nouveau, il y a cette notion de croyance de ce qui est juste, de ce qui est pas juste. Il y a aussi l'éducation qu'on a reçue, notamment au niveau de l'éducation familiale ou l'éducation sociétale, où il y a des jugements sur, sur le plaisir, sur l'orgasme, sur prendre sa place et puis oser assumer tous ses désirs. Et donc tout ça, en fait, c'est emmagasiné au fur et à mesure du temps. Et voilà, le but, c'est de progressivement s'en défaire en disant que ce que je ressens, c'est juste et j'ai le droit de le ressentir ainsi.
Vous parlez de justesse, de choses justes, pas justes. On a l'impression que là, la sexualité est très connotée avec des valeurs morales qui viennent jouer leur rôle. Alors, est-ce que la morale a sa place dans tout ça?
En tout cas, elle a imposé des obligations et elle a imposé une manière de voir. Et c'est tout à fait pertinent, votre question de justesse et de normes. Quand je pose la question aux personnes, qu'est-ce qu'ils veulent comme sexualité? Ils veulent une sexualité normale comme tout le monde. Mais du coup, ça ne veut rien dire. Et la morale, elle est venue un peu mettre un carcan comme ça sur qu'est-ce qui devrait être fait bien et qu'est-ce qui devrait être pas fait.
Je rebondis sur votre propos. Quelle est la difficulté pour vous, sexologue, d'éduquer sur l'intime, sur quelque chose d'aussi individuel, sur une question qui est aussi universelle que celle de la sexualité?
Mais c'est pour ça que je repars, et comme je vous avais dit, je repars vraiment de la personne elle-même. Et donc c'est pour ça que même finalement les différents types de cultures ou les différents types de désirs, pour moi, ils ne sont pas si problématiques que ça du moment que je reviens à la personne.
On parle souvent aussi, oui. Donc vous personnalisez en fait votre accompagnement à la sexualité, en tout cas à l'épanouissement sexuel.
C'est ça. Et donc, du coup, je ne vais pas aller plus loin que ce qui est juste pour la personne. Donc ça, c'est déjà vraiment une première chose. Mais c'est surtout que si des personnes, elles sont déjà très libérées, le but, c'est de les autoriser à le vivre pleinement, avec, bien sûr, comme je l'ai dit plusieurs fois, du moment que tout est consenti, que tout est dans le respect, en fait, de chacun.
Et quand on parle de difficultés sexuelles, est-ce qu'il y en a certaines qui reviennent plus que d'autres chez les patients, les personnes que vous avez l'occasion de rencontrer?
Dans les troubles sexuels, oui, du coup, chez les hommes, c'est beaucoup des troubles érectiles et des éjaculations précoces. Mmh. Et chez les femmes, ce serait plus des troubles du désir avec une absence de libido ou du vaginisme qui est une pénétration impossible parce que le périnée se contracte et donc du coup ne laisse pas la pénétration possible.
Et en termes de récurrence, est-ce qu'il y aurait des préconisations sur la récurrence du fait d'avoir des rapports sexuels ou là aussi c'est très individualisé?
Quelques couples m'ont posé la question de tous les combien de temps devaient avoir des rapports sexuels et pendant combien de temps. Alors j'ai souri en leur disant mais je vous demande pas tous les combien de temps vous mangez un gâteau au chocolat en fait. Et c'est ça, c'est vraiment le côté sortir des normes et se créer nos propres normes de couple et notre propre sexualité, en fait.
Il y a un artiste qui a sa propre norme et sa récurrence sexuelle. Alors lui, il affirme le faire souvent et il le dit dans le morceau « Often » qu'on écoute tout de suite. C'est The Weeknd sur RCN 90.7.
Sneak pictures in my city. I'm a young girl. he'll be so vicious. My God, why he in my pocket? You get me redder than the devil till I go. Now she asked me if I do this every day. I said often. Asked how many times she rode the wave. Not so often. Bitches down to do it either way. Often. Baby, I can make that pussy rain. Often. 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 Girl, I do this often. Make that pussy. Town. She about to go downtown for a whole hour. If I had her, you can have her, man, it don't matter. I'm never sour, I'm just smoking something much louder. She asked me if I do this every day, I said often. Asked how many times she rode the wave, not so often. Bitches down to do it either way, often. Baby, I can make that pussy rain, often.
Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN.
Et on est sur RCN 90.7, toujours vers une sexualité apaisée et épanouie. On vient d'écouter le morceau de The Weeknd, Often. On est avec Pascal Skomski qui est sexologue. Et donc pour parler de la sexualité, Pascal, quel regard est porté sur la sexualité chez les personnes que vous avez rencontrées tout à l'heure? Vous avez fait une analogie assez sympathique en affirmant que vous pouvez comparer le rythme de désir sexuel au désir de gâteau au chocolat. Est-ce que les personnes que vous avez rencontrées justement portent ce rapport-là à la sexualité comme une gourmandise ou un désir, une faim?
Alors, en tout cas, c'est une métaphore que j'utilise énormément en consultation, la métaphore de la nourriture et de la cuisine. Et l'idée de pouvoir aller dans la sexualité de cette manière-là, ça rend un peu la sexualité plus joyeuse et plus accessible pour certaines personnes. On sort de cette notion de contrainte et de cette notion de performance pour venir dans du jeu et dans de l'exploration. Et donc du coup, comme une recette très très compliquée, on va prendre le temps de découvrir les ingrédients, on va prendre le temps de la tester. Et ben le fait de visualiser en tout cas la sexualité de cette manière-là, ça apaise souvent certaines tensions qui sont présentes.
Aborder la sexualité sous l'angle du jeu, ça aussi, est-ce que c'est une technique qui peut relancer le désir dans un couple ou chez une personne?
Oui, parce que du coup, ça va obliger à être dans une sorte de co-création et donc du coup à venir dans une exploration où l'enjeu n'est plus forcément du coup l'orgasme, voilà, c'est plus forcément le but final, mais c'est de prendre plaisir tout au long du jeu. Et donc, du coup, comme un autre jeu de société où on ne se poserait pas la question toujours de qui va gagner, mais en fait, de qu'est-ce, comme un jeu participatif, en fait, un jeu collectif où le but, c'est de créer un maillage et de créer une évolution au fur et à mesure des expériences.
Vous avez cité donc cette métaphore culinaire, cette métaphore avec la nourriture. Et comme dans toute chose, hein, comme dans la nourriture, il faut parfois aussi un équilibre, hein, même sur les gâteaux au chocolat. Comment jauger l'équilibre sur les questions attenant à la sexualité?
Ben, l'équilibre, ça va être en fonction des besoins de chacun. Donc du coup, de nouveau, de ne pas remettre de jugement sur... sur les besoins des uns et des autres, mais essayer de trouver une justesse dans la dynamique de couple. Et si une des deux personnes a plus de désir, dans ce cas-là, c'est la question de comment c'est possible aussi qu'elle puisse un peu utiliser ce désir-là autrement que dans le couple. Et donc transformer cette énergie et cet élan de vie au lieu de mettre la pression à son partenaire pour créer quelque chose, pour développer quelque chose, pour... sinon se faire du bien tout seul. Enfin, le but, c'est de trouver justement cette notion d'équilibre dans le couple pour que tous les deux soient OK.
On va filer la métaphore avec la nourriture. Quels sont les ingrédients pour avoir une sexualité apaisée et épanouie? Est-ce qu'il y a des ingrédients miracles pour redonner du goût?
Alors, je pense que la curiosité, c'est l'un des ingrédients phares d'une vie intime correcte. L'autre, ça serait la communication. Parce qu'effectivement, bah, du coup, sans communication bienveillante, respectueuse et ouverte, bah, on est dans des automatismes. Donc, du coup, de pouvoir communiquer, une reconnexion, comme je vous l'ai dit, à son corps, avec une connaissance de son corps. Voilà, c'est déjà pas mal comme ingrédient, je trouve.
Bah, merci pour ces ingrédients, on va bien les noter, hein, et puis j'espère que nos auditeurs l'ont fait aussi. Tout à l'heure, on a évoqué la question de la pornographie assez succinctement, le rôle de la pornographie dans l'éducation sexuelle. Moi, j'ai envie de vous demander quel rôle joue la télévision, la publicité, Internet, les réseaux sociaux dans l'hypersexualisation des corps de notre société. Qu'est-ce que ça a comme impact aujourd'hui sur le regard qu'on a à propos de la sexualité?
Bah de nouveau, ça recrée des codes et des injonctions qui sont pas forcément réalistes. Par contre, voilà, je suis super contente de voir que sur les réseaux ou que de voir de plus en plus d'associations qui militent pour montrer des choses différentes du beau et du photoshopé. Donc, heureusement, ça commence à prendre une petite place de la pornographie qui n'est pas, du coup, de la pornographie phallocentré, mais qui est une pornographie un peu plus féminine.
On va juste définir phallocentré, hein, pour nos auditeurs.
Hein. Centré sur le génital et sur le pénis.
Voilà, c'est ça, centré sur le phallus de l'homme. Je vous laisse poursuivre.
Oui, et donc du coup, effectivement, pour l'instant, on voit des corps nus pour tout, pour vendre du dentifrice et des voitures, donc ça pose un peu problème, parce que du coup, on fait comme une injonction à libérer la parole, mais du coup, c'est pas la bonne parole qui est libérée.
Et ça crée, selon vous, une fausse représentation, finalement, de la sexualité.
C'est ça, ça crée des injonctions, ça crée des croyances, ça crée des obligations, et comme vous dites, effectivement, ça crée du faux. Donc moi, quand je parle de pornographie, donc on en parle régulièrement dans les consultations, puis avec les plus jeunes, ben, je leur explique que c'est comme un film d'action. Et que dans un film d'action, on ne va pas commencer à faire la cascade avec la voiture à partir de l'hélicoptère. Parce qu'on sait que ce n'est pas réaliste. Et bien peut-être que juste, c'est bien de prendre conscience de la pornographie. Et bien il y a des trucages. Il y a plusieurs caméras qui filment une même scène. Il y a des produits pour rendre l'érection plus dure. Il y a des produits pour, au niveau de la femme aussi, pour faire des réactions qui ne sont pas très naturelles. Et donc du coup, ben, refaire ce qui est dans la pornographie, ça revient à refaire en fait une scène de cascade.
Donc la pornographie, en fait, elle peut troubler l'éducation sexuelle chez les personnes non averties.
Ben, s'il y a pas ce regard critique dessus, oui. Après, une fois qu'il y a le regard critique dessus, ça peut être une source d'excitation comme une autre, et ça peut être accueilli. Mais par contre, quand on n'utilise que ça comme vision de la sexualité, effectivement, ça crée une fausse représentation.
Et quel type de souffrance on peut traîner à cause du manque d'informations ou du regard biaisé sur l'information quant à la sexualité?
bah, du coup, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, une estime de soi qui est très basse, des jugements négatifs sur soi, sur qui on est. Et puis, du coup, une peur d'aller vers l'autre. Là, dernièrement, j'ai quelques personnes célibataires avec une crainte de la relation, une crainte de ne pas pouvoir être comme ils aimeraient, comme les représentations sont posées, comme ils devraient être. Et donc, du coup, ça crée aussi des peurs d'aller dans la relation à l'autre.
Donc, ça naît du fait qu'on se compare, par exemple, aux personnes qui vont être très performantes sexuellement et au final, est-ce que ça va aussi contribuer à inhiber la sexualité?
Ben, le problème de ce stress-là, c'est que du coup, le stress, ça provoque de la cortisone dans le corps, qui est l'hormone qui est contre la sexualité. Et donc, plus on va se mettre de stress, de peur, et moins, en fait, on sera capable d'aller sereinement dans la sexualité parce que cette hormone-là va vraiment agir sur les autres hormones qui sont produites pendant l'intimité, pendant la sexualité. Et donc, du coup, forcément, il va y avoir des troubles.
Pascal, c'est comme si on arrive au bout de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier conseil, un dernier mot à donner pour aller toujours vers cette sexualité apaisée et épanouie?
Je pense que, voilà, pour conclure, c'est de sortir de cette notion de performance pour aller vers quelque chose de l'ordre de l'exploration, de mettre beaucoup de bienveillance envers soi-même et envers l'autre, de pouvoir développer des sources de satisfaction qui soit élargie et pas de rester sur un objectif. Et puis, continuer à communiquer, à élargir vos connaissances, à élargir vos expériences.
Et comment vous contacter pour nos auditeurs qui seraient friands d'une oreille ou de conseils?
Alors, du coup, je suis sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook et LinkedIn sous le nom de Pascal Lasexo. Et sinon, j'ai un site pareil au nom de Pascal Lasexo. Et à partir de là, en fait, il y a un formulaire pour m'envoyer des mails. Et sinon, voilà, avec grand plaisir de pouvoir partager, échanger et puis mettre en place des choses intéressantes.
Eh bien, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et on va se quitter toujours sur ce thème de la sexualité avec un chanteur qui, lui, n'est pas en manque de désir. Il s'appelle De Palmas et le morceau, c'est « J'ai envie de toi ». Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Ça faisait des mois que je pensais plus à toi. Je te croisais dans la rue, ça faisait ni chaud ni froid. J'étais guéri, j'avais bonne mine. Faut savoir lire entre les lignes, lire entre les lignes. J'arrive pas à croire qu'on ait remis le couvert. Y'a des choses dans la vie qui tiennent du mystère. Tu sais pourtant que tu me fais du mal. Trop bonne, ne prends pas mal, ne prends pas mal, ne prends pas mal. Tous les soirs, je voudrais qu'on m'arrête, je voudrais que tu me lâches, que tu me prennes plus la tête. Et le matin, quand tape le soleil à ma fenêtre, j'ai envie de toi, putain de cigarette. Je peux faire des bornes au milieu de la nuit. En état de manque à moitié endormi. Je fais la queue pendant des heures. Tant pis si je passe pour un loser. On me dit qu'un jour tu finiras par trip. Mais un jour c'est vague, c'est flou, c'est pas concret. Alors je t'allume ma jolie héroïne. Partant fumer ma santé et mon spleen. Et mon spleen. Je voudrais qu'on arrête, je voudrais que tu me lâches, que tu me prennes plus la tête. Et le matin, quand tape le soleil à ma fenêtre, j'ai envie de toi, putain de cigarette. Tu vois, t'es comme ces gens toxiques que l'on fréquente par habitude.
On sait que c'est mal, c'est pathétique. Mais faut combattre la solitude. Tous les soirs, je voudrais qu'on arrête. Je voudrais que tu me lâches. Que tu me prennes plus la tête. Le matin, quand tape le soleil à ma fenêtre, j'ai envie de toi. Ta cigarette. Tous les soirs, je voudrais.